bonjour. Aujourd'hui, le 14 septembre, c'est une fête difficile aux oreilles de bien des gens. C'est la fête de la croix que l'on appelle la croix glorieuse. Il y a un monastère dans la région de Québec qui s'appelle justement le monastère de la croix glorieuse. Ce sont les petits frères de la croix qui sont là sous la direction du père Michel Verrette. C'est un nouveau monastère qui date de quelques années. C'est très beau, hein, la croix glorieuse. Il faudra bien analyser ce que ça veut dire parce que c'est pas facile. La croix, on la trouve plutôt pénible, même encore aujourd'hui. Elle était extrêmement pénible au début du christianisme. Pour ainsi dire, presque personne n'en comprenait le sens, ce qui faisait dire que c'était presque une ineptie. C'est saint Paul qui parle de ça, une ineptie, c'est-à-dire une chose absolument ridicule, que de se référer à la croix. Mais pourtant, nous chrétiens, et particulièrement nous catholiques qui avons des croix dans, je l'espère, chacune de nos maisons, des croix qui trônent dans nos églises, des croix qui sont là près de l'autel, nous rappellent qu'à travers la souffrance, il y a la résurrection et qu'à travers la souffrance, il y a un bonheur qui est surprenant. Et ce n'est pas une question de masochisme, absolument pas. C'est aussi la fête aujourd'hui d'une femme étonnante, Giulia Crostarosa, ou si l'on préfère, la vénérable mère Marie-Céleste, son nom de religion, fondatrice des Rédemptoristines, et à compter de ce mois, c'est le 300e anniversaire de sa naissance. Elle est née en 1696, et on va donc célébrer ça l'année prochaine, particulièrement, je vous le signale, au monastère des Moniales Rédemptoristines à Sainte-Thérèse. Il y a là un monastère extrêmement intéressant, animé par des religieuses à la spiritualité très forte et très solide, comme je vous le dirai tout à l'heure. Elles sont sur le chemin de la côte Saint-Louis à Sainte-Thérèse, au nord de Montréal. Elles sont là depuis quelques dizaines d'années. C'est aussi l'anniversaire du décès aujourd'hui d'un carme que j'aime beaucoup, très peu connu, inconnu pour ainsi dire, Jean Dumoulin, qui est mort un 14 septembre 1636 dans le plus complet dénuement. Il était né en 1571 et il a vécu en France, dans la région de Sens. On a publié de lui, je vous le signale et le rappellerai à la fin de l'émission, un livre extrêmement important, à mon avis, qui n'est peut-être pas tout à fait facile à lire, mais très beau, « La pratique essentielle de l'amour ». C'est publié aux éditions du CERF, C-E-R-F, du CERF à Paris, en 1989. Jean Dumoulin, mais il écrit sous le nom de Jean de Saint-Sanson. C'était son nom de religion. C'est aussi la fête aujourd'hui d'un homme exceptionnel, un évêque des missions étrangères qui est mort dans des circonstances absolument pénibles en Chine en 1815. C'était un missionnaire, n'est-ce pas? Le bienheureux Gabriel Taurin, T-A-U-R-I-N, et c'est son prénom, ça, Gabriel Taurin, Dufresne, D-U-F-R-E-2-S-E, inconnu et magnifique. Je n'aurai pas le temps de vous parler de tout ça. C'est aussi l'anniversaire du décès d'un des grands convertis de ce siècle, qui est mort en 1929, Hugo Ball. Un Suisse qui était niché, anarchiste et tout ce que vous voudrez, et qui est devenu l'un des plus grands catholiques de ce siècle. Il y a tellement de gens, comment faire en une heure, n'est-ce pas? Je commence donc, à tout Seigneur, tout honneur, n'est-ce pas, par la croix glorieuse. La fête de la croix glorieuse, bon, j'ai oublié de m'identifier, Raymond Beaugrand-Champagne, C'est une émission quotidienne du lundi au vendredi à 11h. Reprise à minuit le soir. Donc la fête de la Croix glorieuse a une histoire. Je vous l'avais signalé d'ailleurs le 18 août dernier, lors de la fête de Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, c'est l'impératrice romaine qui a trouvé la croix à Jérusalem. Du moins, on lui attribue cette trouvaille. Et une basilique a été élevée à l'endroit même où elle l'a trouvée, à Jérusalem. Elle est toujours là, cette basilique. C'est la basilique dite du Saint-Sépulcre. Et quand on va dans cette basilique, comme j'y suis allé quelquefois, on peut s'agenouiller à l'intérieur de cette basilique, dans une toute petite chapelle, si on peut dire. Et là est le tombeau sur lequel a reposé le corps du Christ, descendu de la croix, et c'est là qu'il est ressuscité. Et le 14 septembre a d'abord pour objet l'anniversaire de cette découverte, puis aussi de la dédicace de cette immense église, qui malheureusement est subdivisée en différentes sections qui appartiennent aux coptes, aux arméniens, aux orthodoxes, aux catholiques, c'est-à-dire aux franciscains, etc. C'est un peu pénible, toutes ces divisions. Ah, si nous savions nous aimer et nous unir. Et le souvenir d'un autre événement qui est venu s'ajouter à la trouvaille de la croix, c'est que le roi de Perse, qui avait conquis Jérusalem vers 615, avait volé la relique et l'a emportée chez lui, en Perse, c'est-à-dire en Iran aujourd'hui. 14 ans plus tard, l'empereur Héraclius a vaincu ce roi de Perse, il l'a chassé, et il a exigé la restitution de la relique de la vraie croix, immense relique. Et ce fut fait. Et Héraclius a voulu la remettre lui-même, à l'endroit où il se trouvait auparavant. Et on raconte, est-ce une histoire, est-ce vrai? De toute façon, c'est magnifique et la leçon à en tirer est très importante. Héraclius, l'empereur, en vêtements absolument somptueux et couverts de pierreries, a pris la relique sur ses épaules. Et une tradition nous rapporte qu'il a été arrêté par une force invincible. Et l'évêque de Jérusalem l'a expliqué pourquoi. Il lui a dit: vous n'imitez pas assez la pauvreté et l'humilité de celui qui le premier a porté cette croix. Et l'empereur, alors, a retiré ses beaux vêtements, a revêtu un manteau absolument ordinaire, il a enlevé ses chaussures et s'est avancé nu-pied, sans plus de difficulté. Les lectures de la messe d'aujourd'hui, qui sont très belles, nous rappellent que cette fête est bien autre chose que la commémoration d'un événement historique. Même si on a toutes les raisons de vénérer cet événement, la croix, oui, en soi, elle est ignominieuse, elle est horrible, elle est à rejeter. Je me souviens d'amis musulmans venant chez moi, étant un peu horripilés de voir tant de croix, parce que j'en ai une dans chaque pièce. Oh, ce sont souvent des croix, qu'ils l'ont dit, de collection. Elles sont très belles. J'ai une croix chinoise du temps où les Chinois se sont convertis au XVIIe siècle. J'ai des croix russes, j'ai des croix coptes, j'ai des vieux crucifix québécois magnifiques. Jean Palardy me disait que j'avais peut-être le plus beau crucifix ancien québécois, etc. J'ai de très belles croix. J'ai celle dont je vous ai parlé l'autre jour, en ivoire du XVIIe siècle, etc. C'est pas pour la collection que je les aime, c'est pour le Christ qui est là. Et pour le sens que j'en retire et le rappel dont il s'est question aujourd'hui. Car la croix, si elle est ignominieuse, elle est devenue glorieuse. Hein? Parce qu'elle a porté quoi? Le Christ lui-même plein d'amour, qui nous révèle le cœur plein d'amour de son Père, qui va jusqu'au bout. On le chante, hein, le Vendredi Saint. La croix dit l'amour du Père, qui a tant aimé les hommes, comme on dit, qu'il a donné pour eux son Fils unique, Mais attention, il le donne pas comme une victime terrible. Il le donne comme le don le plus fantastique que Dieu pouvait nous donner. Il se donne lui-même, quoi. Dans la personne de son Fils. Pour nous saisir, il étend les bras pour nous accueillir. Et son cœur saigne de son âme, le sang, c'est son âme qui se répand pour nous abreuver, pour nous nourrir de son âme pleine d'amour, débordante d'amour. Les lectures de la messe nous rappellent l'impact de la croix glorieuse sur notre existence concrète. Contempler la croix du Christ, la voir désormais comme une croix glorieuse, là, c'est entrer dans le vrai mystère, à mon sens, moi, de la rédemption. La rédemption, c'est s'accepter d'être sauvé par Jésus, c'est-à-dire par cet amour qui nous embrase et nous illumine jusqu'au tréfonds de notre être pour faire de nous des êtres changés, transformés, renés à cette vie qui est celle de l'Esprit-Saint en nous. Alors nos propres croix, même si elles sont très lourdes, perdent de leur poids. Je dis pas qu'on ne cesse de souffrir, mais non, on souffre toujours. Mais nos croix, on peut les soulever alors, par la force de l'amour qui est l'Esprit-Saint qui nous habite et qui vient du cœur du Christ, qui vient du cœur du Père. Un seul Dieu, Père, Fils et Esprit, alors nous habite. Mais ce n'est pas là la seule conséquence de la contemplation de la croix. La manière dont le chrétien doit supporter les croix, les épreuves, tout ça, ça constitue un témoignage. Si, comme chrétiens, nous regardons en haut, quand tout nous porterait à nous courber vers la terre, à pleurer, à gémir, eh bien, les autres qui vont être intrigués, est-ce qu'ils ne seraient pas plutôt amenés à suivre notre regard et à regarder aussi vers le haut, vers Dieu, vers celui qui a été élevé sur la croix pour nous arracher à nos larmes? Dans l'Ancien Testament, au livre des Nombres, vous vous souvenez de l'histoire des serpents venimeux, hein? Et Moïse, à un moment donné, s'est mis à prier le Seigneur en faveur du peuple qui gémissait parce qu'il y avait des serpents venimeux. Et le Seigneur lui avait répondu quoi? C'est très beau la symbolique de ça. Hein? Façonne un serpent de métal et fixe-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. Moïse façonna donc un serpent de bronze et le fixa sur une perche. Et dès lors, tout homme qui avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze avait la vie sauve. La référence de ce texte est au chapitre 21 du livre des Nombres. Ce signe avant-coureur du Christ élevé en croix, qui nous rappelle que nous pouvons avoir la vie sauve si nous le contemplons, car en le contemplant, nous contemplons Dieu. Et nous nous unissons à son âme qui, sur la croix, comme dit saint Thomas d'Aquin, était toujours en contemplation de son Père. C'est dans la somme théologique. Dieu n'était pas pour l'âme du Christ, dit saint Thomas, une cause de douleur, mais une cause de délectation et de joie. En somme, c'est tout un mystère, hein? Parce que nous n'aurons jamais fini de contempler. C'est là le secret de la croix, l'amour infini du cœur de Dieu. Et saint Thomas avait beaucoup d'audace quand il voulait joindre au fond les deux bouts là, de la chaîne de la souffrance et de l'amour, et qu'il parle ainsi là, de la vision béatifique, cette vision bienheureuse que Jésus a conservée sur la croix. Je répète ce qu'il a dit, saint Thomas, Dieu n'était pas pour l'âme du Christ en croix, disons, une cause de douleur, mais une cause de délectation et de joie. Et c'est là que l'âme chrétienne est très différente de quiconque. Quand on est vraiment chrétien, quand on a rencontré Jésus-Christ, Quand on a appris à l'aimer, on partage avec lui cette vision, au creux des plus grandes souffrances. Ce n'est pas facile, c'est le cardinal Marty qui disait « Ne parlez pas trop de la souffrance tant que vous n'y ayez pas goûté, et alors peut-être vous tairez-vous. » Peut-être y a-t-il des gens qui m'écoutent qui souffrent terriblement et qui disent au fond de leur cœur « Taisez-vous, vous ne comprenez pas. » Mais je ne veux pas me taire. Je voudrais préparer mon âme, moi aussi, à la souffrance qui viendra plus tard, pour me convaincre des réalités de la foi, que je puisse apprendre petit à petit à passer à travers les plus grandes souffrances qui m'attendent peut-être avant de mourir, et que je sache toujours être joyeux au fond de mon cœur, que je sois toujours dans une délectation et dans la joie, comme dit saint Thomas d'Aquin. Je vous lis la lecture de la messe aujourd'hui de saint Paul, apôtre aux Philippiens. C'est un très, très, très beau texte. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père ». C'est la proclamation du centurion au pied de la croix, qui s'écrie vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. C'est très beau. Les mots qu'on applique à la croix, croix glorieuse, on dit exaltation, gloire, triomphe, ça exprime les sentiments profonds d'un vrai cœur chrétien. Ça nous autorise par-delà nos larmes que la croix n'est pas un opium, mais qu'elle reste une grande espérance, hein? Comme on chantait autrefois, « O crux ave spes unica ». Vous vous souvenez, les plus vieux, ce beau chant, hein? « Salut aux croix, mon unique espérance, gloire et salut du monde. Pour les justes augmente la ferveur, et pour les pécheurs obtient le pardon. » Nous avions aussi autrefois ce beau chant du Vexilla Regis. Vous vous souvenez de ça, hein? C'était magnifique, au fond. Ces beaux chants qu'on avait, hein? Je vous en lis des extraits. « Les étendards du roi s'avancent, la croix rayonne en son mystère. En croix, la vie subit la mort. Par sa mort, elle eut fruit de vie. Hein? » Sur la croix, c'est-à-dire la vie qui le Christ, il dit « Je suis la vie hein? ». Donc la vie subit la mort. Et par sa mort, la vie a eu comme fruit, quoi? Des fruits de vie. Quel beau chant, hein? C'était très beau. Salut aux croix, seule espérance, gloire et salut du monde entier. À ceux qui t'aiment, grâce abondante, à tout coupable le pardon. À tout coupable le pardon. C'était le refrain, ça. Il était dit aussi dans un autre quatrain. Arbre splendide, éblouissant, orné de la pourpre du roi. Trône choisi qui a été trouvé digne de toucher ses membres très saints. La croix est grande que par le Christ en soi. C'est un instrument de torture abominable. C'est rien du tout une croix. Mais elle est immense par le Christ lui-même. Et quand on voit une croix dépouillée de son corpus, elle demeure grande par le Christ lui-même. Dans l'évangile de Saint Jean, on peut lire, Comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que tout homme qui croit en lui ait par lui la vie éternelle. Et c'est par le Christ qu'on a la vie éternelle. C'est lui qui est la vie éternelle. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis, dit Jésus. Je suis. C'est le nom que Dieu s'était donné dans l'Ancien Testament. C'est le nom qu'il se donne dans l'Ancien Testament. Et dans ce Nouveau Testament, Jésus se l'applique à lui-même. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme sur la croix, alors vous saurez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Il dit aussi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Saint Irénée, un des grands saints du tout début de l'Église, qui dit, il a vécu à Lyon, qui était évêque de Lyon, c'est, disons, le fondateur de l'Église française. À nous, Canadiens français, Québécois de langue française, c'est notre ancêtre dans la foi, notre patriarche, dirait-on. Et il dit, par le bois de la croix, l'œuvre du Verbe de Dieu s'est manifestée à tous. Ses mains y sont étendues pour rassembler tous les hommes. Deux mains étendues, car il y a deux peuples dispersés sur toute la terre, le peuple de l'Église d'Orient et le peuple de l'Église d'Occident. Une seule tête au centre, dit saint Irénée, car il y a un seul Dieu au-dessus de tous, au milieu de tous et en tous. Victor Hugo lui disait, « Vous qui pleurez, venez à ce Dieu car il pleure. » Saviez-vous ça que Victor Hugo disait que Dieu pleurait? C'est beau, hein? « Vous qui pleurez, venez à ce Dieu car il pleure. Vous qui souffrez, venez à lui car il guérit. Vous qui tremblez, venez à lui car il sourit. Vous qui passez, venez à lui car il demeure. » Dans l'Imitation de Jésus-Christ, on peut lire, « Il n'est pour l'âme de salut et d'espérance de la vie éternelle que dans la croix. » Et dans la croix, qui nous ramène au Christ, et je voudrais vous dire deux mots du Saint-Suaire de Turin. Vous savez que je le connais bien, le Saint-Suaire de Turin. J'ai eu la chance de faire un film qui a fait le tour du monde sur cet objet miraculeux, qui nous montre la face du Christ, mais aussi tout son corps, et les plaies qu'il a subies, les plaies dans les poignets, la plaie au côté, la couronne d'épines, la flagellation, tout, les coups à la figure. Et quand on contemple le Christ, descendu ainsi de la croix, et laissant sur le linceul dans lequel il a été enseveli son image de tout son corps de face et de dos, et qu'on le contemple tous les jours comme je le fais, on arrive à connaître Jésus-Christ et à l'aimer bien davantage. Que n'utilise-t-on pas dans nos paroisses auprès des jeunes? Le Saint-Suaire de Turin. Les jeunes seraient ravis d'entendre parler de cet objet unique, mystérieux, ésotérique, dirait-on, qui nous rapproche de Jésus-Christ, qui nous font comprendre son âme et son amour, et l'amour que Dieu nous porte. Et je voudrais vous parler maintenant d'une sainte qui est vraiment merveilleuse. Elle est vénérable, enfin. La vénérable mère Marie-Céleste, ou Giulia Crostarosa, fondatrice des Rédemptoristines, dont nous fêtons à partir d'aujourd'hui le 3e centenaire de la naissance. Elle est née en 1696. Un 31 octobre. Elle est née à Naples, dans le sud de l'Italie. C'est beau, Naples. La vue, là, sur la Méditerranée. Que c'est beau. Et son père, docteur en droit civil et ecclésiastique, en droit des deux, donc en droit canon, si vous voulez, en droit civil, occupait un rang important, peut-être un magistrat. Giulia était la 10e enfant, imaginez. C'était un rayon de soleil. Elle était pleine d'entrain et de bonne humeur. Une petite fille merveilleuse, quoi. Et évidemment, elle était choyée de tous. Les enfants de ce genre sont choyés de tous. J'en sais quelque chose, mon petit-fils, c'est comme ça. Mais elle était secrète. Et très tôt, elle a commencé à avoir une expérience mystique, oui. Une expérience mystique absolument surprenante chez un si jeune enfant. Elle a écrit son autobiographie. Et elle dit qu'alors qu'elle avait à peu près 12 ans, le Seigneur lui a fait entendre au fond de son cœur, « Je veux être ton guide, c'est moi qui te conduirai, moi seul. Ne cherche personne d'autre que moi. Je serai ton maître. » Et notre petite Giulia a grandi à 21 ans. Elle a brûlé de se consacrer à Dieu et au printemps 1718, elle a accompagné sa mère, avec deux sœurs, au Carmel de Marigliano, à 15 kilomètres de Naples, pour une visite, pour rencontrer la prieure du monastère. Alors la prieure, au cours de la conversation, lui a lancé à brûle-pourpoint, « Giulia, qu'attends-tu pour te donner au Seigneur? Tu as 21 ans. N'aimerais-tu pas rester aujourd'hui même avec nous dans ce monastère? » Ça me rappelle une visite que j'avais faite avec ma mère et des amis chez les Clarisses de Valleyfield. Comme c'était merveilleux d'aller voir comme ça avec sa mère des religieuses. Alors elle, Giulia Crosta Rosa, ou mère Marie-Céleste, a répondu tout de suite, et ça montrait bien son tempérament, un tempérament entier, tout d'un bloc qui fait les saints et les saintes. On n'est pas saint ou sainte et on ne le deviendra jamais si on est mollasson, si on reste étendu, si on dit « Ah, tout à l'heure, demain, oh, j'irai à la messe un autre jour, il pleut aujourd'hui, ah, ah, on fait rien quand on est comme ça, j'aiderai les pauvres un de ces jours, je me déciderai, j'irai faire ceci, je ferai cela un autre jour. » On n'arrive à rien. Il faut être comme elle, hein? Une femme de tête, une femme de cœur, éprise de liberté. Et c'est ainsi qu'elle a saisi le sens profond de l'Évangile. Elle est décidée à aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, avec audace, sans calcul. Et sur le champ, bien, elle obtient l'assentiment de sa mère. Et elle espère aussi celui de son père, qu'elle aime, hein? Et ça tardera pas. Avec enthousiasme, alors, elle découvre dans le monastère des Carmélites les splendeurs de la mystique de Sainte Thérèse d'Avila. Ça doit donc être merveilleux que d'être une vraie carmélite. Et comme elle, bien Giulia est fascinée par le Seigneur. Et alors, le 21 novembre 1719, l'année suivante, elle émet ses vœux de religion, puis elle vient de mourir au monde. Mourir au monde, ça veut dire naître à Dieu, naître aux grandes réalités. Parce que mourir au monde, ça veut pas dire mourir au monde intéressant, là. C'est mourir au monde plat, des pertes de temps. Parce que dans le monde, on peut se sanctifier. Marié, on peut devenir des saints. Aucun doute là-dessus. Mais c'est peut-être plus difficile, parce que les futilités sont là toujours. Hein. Faut faire bien attention. Et Sœur Candide Céleste, c'était son nom au début, se met à grandir en spiritualité. Et 6 mois plus tard, on la nomme maîtresse des novices. C'est très jeune. Elle forme les autres à la contemplation. Et à l'ascèse, c'est-à-dire la discipline personnelle. Et avec douceur, avec bon sens, elle fait comme Thérèse d'Enfant Jésus, qui a aussi été maîtresse des novices, elle qui est morte à 24 ans. C'est fantastique, maîtresse des novices si jeune, mais c'était des femmes exceptionnelles. Alors elle fait donc ça, notre sœur, avec rigueur, mais sans raideur. Et elle forme les autres en se laissant former par Dieu lui-même, par Jésus. Et là où d'autres ne découvrent dans l'Évangile que des mots puis des idées, c'est donc facile de lire l'Évangile, moi le premier, puis de découvrir des beaux mots, des belles idées. Elle perçoit, sous l'action de l'Esprit-Saint, le Christ lui-même qui lui parle directement. Quand on entend l'Évangile sortir de la bouche du prêtre, c'est le Christ qui jaillit à travers l'église là, ou la chapelle et qui rentre dans notre oreille et qui rentre dans notre cœur et dans notre mémoire, dans notre volonté, dans notre imagination. Et elle le sentait, elle. Elle en a vécu et c'est à travers la parole qu'elle a découvert le vrai visage de celui qu'elle aime passionnément. Si ce visage est sur le Saint-Suaire de Turin, il est d'abord et avant tout vivant dans sa parole, dans l'Eucharistie, dans les pauvres, dans les autres. Et l'image de la Sainte Face est là pour nous rappeler que Jésus est vraiment vivant, car la sainte face, s'est imprimé sur le linceul au moment de sa résurrection. C'est ce que les savants nous disent aujourd'hui de plus en plus. Ils n'en ont point la preuve, évidemment, sur le plan scientifique, mais c'est la seule solution à tous leurs questionnements. Et alors donc, notre sœur Marie, notre sœur plutôt, qui s'appelle Candide Céleste, puisqu'elle est au Carmel à ce moment-là, eh bien, elle parle directement au Christ. Elle engage avec lui une conversation aussi réelle que nos dialogues humains. D'ailleurs, elle dit un matin après la communion, le Seigneur me dit, « Je veux faire de toi la mère d'âmes nombreuses que je sauverai par toi. » Entre autres choses, il me fit voir une compagnie d'âmes religieuses que je ne connaissais pas, ajoutant que je devais fonder des monastères. Mais il ne m'en a pas dit plus. Je n'y compris rien et je n'y attachais pas d'importance, tant cela me parut au-dessus de mes pauvres moyens. Et là, la voilà engagée, sans rien comprendre, sur le chemin de la fondation, et plus tard, elle notera d'autres confidences du Seigneur à ce sujet. Hein. Vous savez qu'elle a fondé les Rédemptoristines. Donc, elle va quitter son cloître de Carmélite. Dans cet ordre, lui dit Jésus, il n'y aura ni fondateur, ni fondatrice. Mais au fond, c'est elle qui l'a fondé, mais enfin, disons que c'est Jésus, puisqu'il le lui dit, « Parce que moi-même, dit Jésus, j'en serai la pierre fondamentale, mes paroles et mes conseils le ciment. Mon père sera l'architecte et l'ouvrier, et toi, tu seras la terre de l'édifice. » Alors, cette terre de l'édifice, bien, Jésus la prépare patiemment au fil des ans. Elle écrit, « Le Christ me donna une vue claire, une compréhension très vive de la vérité de la foi. Il me donna à comprendre ces paroles que rapporte l'Évangile. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Qui peut prononcer de telles paroles? Avez-vous déjà pensé à ça? Un fou dit des choses comme ça, ou bien Dieu. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Si Jésus n'avait pas été Dieu lui-même incarné, comment aurait-il pu dire de telles choses? Alors elle marche avec lui, notre sœur. Et encore, pour bien comprendre cette expression, il ne s'agit pas pour elle de kilomètres à parcourir, encore moins des gestes à reproduire, mais d'un mystère à continuer. Là, c'est le mystère pascal qu'elle veut continuer. Et bien sûr, cet itinéraire, ben, c'est l'itinéraire de tous les chrétiens. Car les rédemptoristines sont comme nous, mais totalement données. Vous verrez par leur belle spiritualité. Alors, elles s'attachent à Bethléem, le lieu de la naissance de Jésus, le Golgotha, où il est mort, et le radieux matin de Pâques, dont je vous ai parlé tout à l'heure en vous parlant du tombeau du Christ, le sépulcre. Puis, elle parle aussi du feu de l'Esprit-Saint au jour de la Pentecôte. Elle s'attache à ça. Ce chemin, bien, le Seigneur en a tracé le parcours. Hein? Il y a précédé ses disciples, il y est toujours présent, et aujourd'hui, il s'agit de s'y engager nous aussi, et elle s'y engage résolument. Et c'est la mission de la moniale rédemptoristine. Cette mission, elle l'accomplit en Église. C'est là l'une des premières intuitions de Giulia Crostarosa. Son idéal n'est donc pas de devenir une héroïne de la pénitence, de la pauvreté ou de quelque autre vertu. Non, 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 non. Celle qu'on appellera bientôt Sœur Marie-Céleste ne rêve que d'une chose, vivre en communauté la spiritualité missionnaire de tout chrétien, radicalement, là, radicalement, jusqu'au bout. Je vis, mais ce n'est plus moi. C'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul dans l'Épître aux Galates. Et alors que la maîtresse des novices travaille à se former, à former ses novices, à réformer son propre monastère, des missionnaires que l'on appelait pieux ouvriers, viennent donner une mission près du Carmel de Marigliano, là, 14 kilomètres de Naples, où est enfermée notre sœur pendant l'hiver 1722. Et un père du nom de Falcoya assure la direction de cette mission. Et alors, il vient prêcher les exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola, là, au Carmel. Alors, pour Giulia, c'est l'occasion de le rencontrer et de lui parler de ce qu'elle a reçu du Seigneur, et alors il l'encourage. Il lui fait aussi des confidences sur un monastère, le monastère de Scala, qu'il vient, à la demande de l'évêque de l'endroit là-bas, là, de restaurer avec l'aide d'un autre missionnaire. Alors la nouvelle communauté est petite, il n'y a que 9 religieuses dans ce nouveau monastère de la Scala. Il a obtenu des visitandines de Naples, un exemplaire de leurs règles et de leur constitution. Puis, en vain, il a demandé qu'une religieuse des Byzantines vienne à Scala pour former la jeune communauté dans l'esprit de Saint François de Sales. Les Byzantines, ça a été fondé par Saint François de Sales, Sainte Jeanne de Chantal. Alors, bref, le couvent de Scala existe, mais il n'a pas encore de consistance juridique, en ce sens qu'il est rattaché à aucun ordre. Alors, le père et la sœur, notre sœur Giuliana, ils se quittent, se promettent de prier, de correspondre. Bon, c'est très banal, mais un an plus tard, le Carmel de Marigliano ferme ses portes. Bien oui, il y a eu des tracasseries, des ingérences d'une duchesse de l'endroit. C'en est la cause. Cette duchesse s'était arrogée un tel pouvoir, dit le texte, sur le monastère, qu'elle a réduit les pauvres sœurs, les pauvres carmélites, aux dernières tribulations, séquestrant tous leurs biens et les privant même de confesseurs. Imaginez que des laïcs, si puissants soient-ils, s'ingèrent ainsi dans l'activité démoniale. Enfin, alors là, l'évêque a conseillé aux carmélites de se retirer, mais de chercher refuge dans un autre monastère. Alors Giulia rentre alors dans sa propre famille, à Naples, pour se reposer, en attendant de mieux connaître la volonté du Seigneur sur elle. Alors plusieurs couvents s'offrent à la recevoir. Même si elle n'a pas de dot, hein, ou de dot, c'est-à-dire une certaine somme d'argent, qui était nécessaire au début pour payer les frais d'entretien d'une religieuse qui souvent repartait. Après 6 mois, 1 an, comme moi je suis reparti après 2 ans, ça prenait un peu d'argent parce qu'en partout, il faut les nourrir, les habiller, etc., les chauffer, les soigner. Ça coûte c'est normal qu'on demandait à l'époque un peu d'argent. Hein. Mais avant le départ, elle a écrit au père Falcoia, et celui-ci est ravi de pouvoir agrandir la communauté de ces moniales de Scala, qui n'ont pas de nom, là. Il l'invite à y venir avec ses 2 sœurs, celles qui faisaient partie du Carmel de Marigliano avec elle, car elles étaient toutes les 3 là. Et cette joie est partagée par toute la communauté du monastère Scala, qui accueille les 3 nouvelles recrues à la fin de janvier de 1624, et 15 jours plus tard, les carmélites d'hier portent maintenant l'habit des Visitandines. Elle va changer 1/3 fois d'habit, c'est pas possible. Alors, Giulia a un nouveau nom. Là, cette fois-ci, elle s'appelle Sœur Marie-Céleste du Saint-Désert. Ça peut nous faire rire aujourd'hui. Il y avait des noms comme ça il n'y a pas si longtemps. Mais le Saint-Désert, c'est très beau quand on pense à toutes les fois que je vous ai parlé des anachorètes, des déserts d'Égypte. Et c'était ça le 9 février de 1624. Donc, l'année suivante, le 25 avril 25, quoi, ça a eu lieu un événement décisif. Dans une lettre de 1730 au mois de septembre, Sœur Marie-Céleste en fera le récit détaillé, acquis à Saint-Alphonse de Ligorie lui-même, le fondateur des rédemptoristes. Elle écrit, il y a quelques années, le jour des rogations, après que j'eus communié, j'étais saisi d'un amour suave pour Jésus, à me consumer. Et durant ce temps, il m'a fait entendre tout le prix de sa vie, et qu'il voulait me donner un nouvel institut qui rappellerait au monde tout ce qu'il a fait pour l'homme. J'en ai parlé tout à l'heure en vous parlant de la croix glorieuse. Et en même temps, continue notre sœur, je reçus connaissance pleine et entière, d'une manière absolument distincte, de tout ce qui devait être contenu dans la règle, et il m'ordonna d'écrire le tout en son nom. C'est ce qu'elle écrit à Saint-Alphonse de Ligorie, dont je vous ai déjà parlé au début du mois d'août. Mais après la joie de cette journée, le doute et l'angoisse assaillent Sœur Marie-Céleste. Est-ce bien ce que Dieu veut? À qui doit-elle se confier? Alors, le père Falcoia, directeur spirituel du monastère, il est à Rome, lui. Elle en parle alors à la maîtresse des novices, et celle-ci lui répond, « Loué soit le Seigneur qui a exaucé nos prières, depuis tant d'années que nous le supplions de rendre plus parfaite l'observance de ce monastère de Scala, qui, faute d'avoir une visitandine pour fondatrice, est resté si longtemps sans savoir quel était au juste l'esprit de la règle. Voici venir le temps où le Seigneur Jésus va nous donner de solides fondements pour la vie régulière. » Alors, sans tarder, le couvent est mis au courant, les religieuses sont très ravies de tout ça, et le père Falcoia revient, puis il est d'abord sceptique. Il se rassure après avoir consulté quelques théologiens de Naples. Et puis le supérieur général des pieux ouvriers dont il a été question tout à l'heure est d'abord favorable. Et tout à coup, il s'oppose carrément au projet. Il interdit même au père Falcoya de remettre les pieds à Scala. Alors les pauvres sœurs sont privées de leur directeur spirituel, qui lui est en désaccord avec l'autorité locale, mais les religieuses renoncent à changer d'habit, de nom, de règles et de constitution. Mais le temps passe et une nouvelle supérieure est nommée. Alors finalement, de plus en plus, dans cet été 1730, Saint Alphonse, qui est épuisé, lui, Saint Alphonse de Liguori, est épuisé par toutes les prédications qu'il fait, vient se reposer à Santa Maria dei Monti, qui est juste au-dessus de Scala. Et tout en se reposant, il évangélise les bergers des alentours, et alors, il était évêque, Saint Alphonse de Liguori. Et plutôt, l'évêque du lieu admire son zèle, et il l'invite à prêcher pour la fête de Dieu dans sa cathédrale. Puis il lui demande de revenir en septembre pour prêcher la neuvaine appelée du crucifix à l'occasion de la fête de la croix glorieuse. Et c'est l'occasion pour Monseigneur Falcoya de demander à Saint Alphonse, en qui il a une totale confiance, de passer au monastère, de tirer au clair la situation. Et là, Saint Alphonse arrive avec des préjugés défavorables, parce qu'il a entendu des ragots qui circulent à Naples sur les visionnaires de Scala, dont sœur Marie-Céleste. Mais c'est un homme impartial, Saint Alphonse. Il prend le temps d'écouter chaque religieuse, et sœur Marie-Céleste surtout. Alors finalement, les choses s'arrangent. Et le 13 mai 1731, jour de la Pentecôte, il y a messe et prédication et un tédéum qui consacre la naissance de l'ordre des moniales. Et sœur Marie-Céleste, pour la troisième et dernière fois, change d'habit, de règles, de constitution et de nom. Et désormais, elle s'appellera sœur Marie-Céleste du Saint-Sauveur. Et cette fondatrice touche au terme de sa mission. Parce qu'elle a connu la lumière du Sinaï, elle a rédigé la loi de son ordre, les règles dictées par le Sauveur. Elle a vécu l'extase du mont Tabor, là où le Christ était transformé devant ses apôtres. Vous vous souvenez sur le mont Tabor? Elle a vu le Christ à visage découvert. Mais l'Évangile est toujours une histoire tragique, et l'heure est venue pour elle d'entrer dans le jardin de Gethsémani. Et elle ne tarde pas à boire au calice des calomnies, des injustices, des abus de pouvoir. Toutes les fondatrices, on dirait, sont passées par là. Et le Seigneur l'avait prévenue. Il lui avait dit, « Tu es ma bien-aimée, je te fais partager mon règne. Gloire et croix, paix et peine. Quiétude et affliction s'y succèdent. C'est ainsi que j'ai vécu quand je cheminais sur la terre. » Alors en mai 1733, par suite d'incompréhension et de heurts avec l'évêque Monseigneur Falcoya, en l'absence de Saint Alphonse de Liguori, sœur Marie-Céleste est même rejetée de sa communauté. Encore une autre qui doit quitter. La raison, Monseigneur Falcoya exige d'elle et de toutes les sœurs de s'engager par vœu à n'avoir aucun autre directeur spirituel que lui-même, et elle refuse. La supérieure lui signifie son expulsion, et au matin du lundi de Pentecôte, 25 mai 1733, 2 ans après la fondation, Monsieur Marie-Céleste, après avoir baisé la main de la supérieure, elle est embrassée, et a embrassé chacune des sœurs, quitte le monastère et calme, toujours discrète, elle est expulsée. Elle connaît alors quelques années d'errance, d'abord au conservatoire de la Santissima Annunziata à Pareti, un petit hameau de Nonchera dei Pagani. À la demande de l'évêque, elle réforme le couvent de l'endroit. Ensuite, elle passe un moment à Roccapimonte, également dans les environs, où elle fait un essai de fondation. Puis enfin, 5 ans plus tard, en 1738, en plein accord avec l'évêque, elle peut établir à Foggia, là où était le père Pio, là, durant notre siècle, elle fonde là un monastère, en tout conforme aux règles reçues à Scala. Monseigneur Cimichella est allé visiter les rédemptoristines de Foggia. Il a même écrit un très beau livre, « La mystique errante du rédempteur, vénérable mère Marie-Céleste Crostarosa ». C'est une brochure, mais c'est presque un livre, ça, 100 pages. Et je vous le recommande fortement. Alors là, à Foggia, bon, donc, elle a l'occasion de rencontrer à nouveau Saint Alphonse de Liguori lorsqu'il vient y prêcher une mission. Leur amitié est intacte. Et dans cette ville, elle rencontre qui? Un frère rédemptoriste que vous connaissez tous, c'est Saint Gérard Majella, et il correspond avec elle. Il lui adresse des jeunes filles en recherche de vocation religieuse. Aujourd'hui, où est-ce qu'il les enverrait? Eh bien, il les enverrait, n'est-ce pas, à Sainte-Thérèse, chemin de la côte Saint-Louis, 115 ouest, chemin de la côte Saint-Louis, les moniales rédemptoristines sont là. Alors donc, en ce 18e siècle, qui était bien des égards un désert mystique, notre sainte religieuse qu'on appelle la Foggia, la sainte prière, qui n'a jamais étudié, qui a appris à lire, mais non pas à écrire, ça existait dans ce temps-là, et dont les écrits qui ont été rédigés sans ponctuation ni orthographe, ils seront presque toujours arrachés par obéissance, bien cette religieuse est probablement une des grandes mystiques de son temps. Et à travers un vocabulaire très limité, très simple, elle laisse échapper des vues profondes sur le sens de sa fondation et sur la face cachée de son âme. « J'ai eu, lui dit le Seigneur, l'ardent désir de donner au monde mon esprit et de le communiquer à mes créatures douées de raison, afin de vivre avec elle et en elle jusqu'à la fin du monde. Dans mon amour infini, je leur ai donné mon Fils unique, et par lui, je leur ai transmis mon divin esprit consolateur pour les faire vivre de la vie divine dans la justice et la vérité, et pour les rassembler toutes étroitement dans mon amour en lui qui est ma parole et mon Fils bien-aimé. » Mais c'est extraordinaire, ces beaux textes. Elle a une spiritualité trinitaire et profonde. C'est tellement exceptionnel que c'en est bouleversant. C'est une spiritualité pascale, c'est pas une spiritualité individualiste. Et comme le répète avec force sœur Marie-Céleste, cette vie dans le Christ n'est pas d'abord pour nous-mêmes. C'est une spiritualité missionnaire. La moniale rédemptoristine est entrée au monastère non pas pour se sauver elle-même, mais pour sauver les autres. Elle contemple Dieu pour se laisser habiter par lui, transformer par lui, aimer par lui, et ainsi devenir mémorial de salut pour la multitude des gens qui sont perdus dans le monde et qui savent pas, qui sont comme des zombies. Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Et quand on pense à ces femmes-là, ça nourrit notre propre vie. On devient de meilleurs laïcs quand on a la chance d'aller dans leur monastère à Sainte-Thérèse ou ailleurs et de les voir prier, de les entendre. Ah! En voyant vivre la communauté des moniales du Très-Saint Rédempteur, c'est leur vrai nom ça, les rédemptoristines, eh bien les hommes et les femmes peuvent découvrir l'amour de Jésus-Christ. « Je veux, disait le Seigneur, que quiconque vous regarde sur terre se souvienne de moi dans cet institut, et je veux qu'il soit le souvenir des œuvres que j'ai faites dans ma vie. » Alors la règle principale pour sœur Marie-Céleste n'est autre que l'Évangile. C'est établi sur une foi profonde. L'union au Christ sur la croix, sur l'offrande de sa propre personne en hostie sainte et agréable à Dieu. Il n'y a là aucune déformation morbide, mais c'est la conscience aiguë que l'amour ne peut être vrai s'il ne va pas jusqu'au sacrifice. Il faut que le grain meure s'il veut porter du fruit. Alors elle suit son chemin jusqu'au bout. Et le jour de la fête de la croix, le 14 septembre 1755, sœur Marie-Céleste, avant de mourir, demande à ses sœurs, « Lisez-moi encore la passion du Sauveur. » Alors on fait la lecture et peu de temps après, elle s'éteint. Un 14 septembre. Et à la même heure, dans le couvent de Mater Domini, mère du Sauveur, du Seigneur, saint Gérard Majella, gravement malade, dit à ses confrères, « Sœur Marie-Céleste, en ce moment, vient d'entrer dans le ciel et de recevoir la récompense de son grand amour pour Jésus et Marie. » Il l'avait vu. C'est une canonisation spontanée que Gérard Majella prononçait. C'est celle d'un ami, et plus tard, l'Église prendra le temps de déclarer sœur Marie-Céleste Crosta Rosa vénérable. L'Église approfondira son message et admirera son œuvre à travers le monde, l'ordre des moniales du Très-Saint Rédempteur. Je ne saurais trop vous conseiller de vous modeler sur la spiritualité de cet ordre. La vivante mémoire de Jésus Rédempteur, c'est ça la spiritualité missionnaire de la moniale du Très-Saint Rédempteur, de la rédemptoristine qui est appelée à devenir davantage transparence du Seigneur, comme nous devrions les imiter, comme nous devrions être comme saints. La moniale se laisse habiter par Jésus. transformée par son esprit, et ainsi elle devient une présence. Elle est un rappel vivant du Sauveur venu pour que tous vivent de sa vie de plénitude. Marie-Céleste écrivait, « Je veux que quiconque vous regarde sur la terre se souvienne de moi et des œuvres que j'ai faites. » C'est le texte révélé à elle par Jésus lui-même. La règle principale pour Marie-Céleste n'est autre que l'Évangile, tout l'Évangile, sans cesse méditer et sans cesse prier. La rédemptoristine devient peu à peu tout au long de sa vie le regard de Dieu pour tous, la parole de Dieu pour tous, l'amour de Dieu pour tous. Et c'est ainsi que Jean-Paul II disait, en vous voyant ou en vous rencontrant, il faudrait qu'on puisse dire ou du moins sentir qu'on a rencontré Dieu.